Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour, la semaine dernière, nous avions 3 interviews, il y avait 2 réalisatrices et 1 réalisateur dans Cinérama. Cette semaine, on va pas faire mieux, mais on va quand même faire bien avec encore 3 personnes. Mais cette fois-ci, ce sera un réalisateur, Ludovic Bernard, et puis 2 comédiens, Alice Belaïdi, et puis l'humoriste Ahmed Silla, qui joue dans le film L'Ascension, qui sort ce 25 janvier. Ce sera donc la partie interview de cette émission. Et puis toi, Manu, de quoi tu vas nous parler ?
Je ne pouvais pas passer à côté du blockbuster de la semaine, XXX Reactivated de DJ Caruso, et puis le nouveau film raté à mon avis, c'est vraiment raté, de Ben Affleck, Live by Night.
Et puis moi, je vous ferai un petit rattrapage avec Ouvert la nuit, le film d'Edouard Baird qui est déjà sorti depuis le 11 janvier. Mais nous allons commencer avec un autre rattrapage, décidément. C'est celui de Un sac de billes, le film de Christian Duguay, film très attendu, film populaire qui est sorti sur les écrans le 18 janvier.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Il y a un problème. Il faut partir d'ici. C'est trop dangereux.
J'aurais pu en parler la semaine dernière, mais l'actualité était bien chargée. La priorité a été donnée aux interviews et au film coup de cœur, en l'occurrence de Fitz, qui a dû quitter les salles maintenant. Un sac de billes pouvait attendre, d'autant que le film classé dans la veine populaire a fait un démarrage fulgurant avec près de 330 000 entrées en une semaine, avec tout de même une présence sur plus de 500 écrans. Alors, il ne devrait pas avoir de mal à dépasser le un peu plus d'un million de spectateurs qui s'étaient déplacés voir la première adaptation du récit de Joseph Joffo. C'était en 1975 avec aux manettes Jacques Doyon, qui avait vu dans ce récit l'occasion de faire le portrait de la jeunesse dans une période trouble. Le point commun entre le film de Doyon de 75 et celui du Québécois Christian Duguay de cette année, c'est que ce sont tous les deux des films de commande. Mais on reconnaîtra qu'on a chez Doyon un réalisateur qui refusera davantage les concessions que Christian Duguay. On doit aux Québécois Coco Chanel, Japlou ou encore Belle et Sébastien, autant de films qui tranchent avec son passé de réalisateur de série B. À la vision d'Un sac de billes, je peux vous assurer que le Québécois n'a plus de rapport avec son Planète Hurlante de 95. Et il avait fait aussi des reprises de Scanners après Cronenberg.
Scanners 2 et 3. Et puis L'Art de la guerre aussi avec Wesley Snipes, un thriller assez efficace d'ailleurs.
Voilà, ça c'est tourné cette page. Alors l'histoire c'est donc celle de Joseph et de son frère Maurice. Nous sommes fin 1941. L'étoile jaune est obligatoire et le père des deux enfants, qui doivent avoir alors 8 et 13 ans, sent que ses petits sont en danger. Il serait davantage en sécurité en zone libre. Problème, si toute la famille part en même temps, ce sera suspect. Les deux enfants vont donc devoir faire ce chemin vers Nice seuls avant de retrouver leurs parents. Il s'ensuivra 4 années de fuite de Nice à Menton en passant par la Savoie dans les derniers temps. 4 années où les deux frères vont être soudés, vont évoluer aussi et où ils garderont toujours l'espoir de recomposer une famille.
Vous allez me jurer que jamais vous direz à qui que ce soit que vous êtes juif.
Promis.
Joe, t'es juif ?
Non. Arrêtez.
Je sais que t'es juif. Est-ce que t'es juif?
Non.
Je sais que t'es juif.
Non, je suis pas juif.
Faut lui prendre une tête qui fait mal. Que de perdre la vie parce qu'on a peur d'en prendre une. Ça va aller.
Alors, pour saisir la différence entre les deux versions du film, écoutons un extrait presque pris au hasard de la version de Doyon en 75.
On veut pas aller dans les Alpes.
Mais comprends que tu peux pas retourner à l'hôtel Excelsior, c'est pas possible.
Peut-être nous arrêter, il a raison. C'est bien. T'es fou ou quoi, toi? Tu vas laisser papa mourir?
Il n'est pas question de le laisser mourir, non, laisse-le.
Alors, si je m'efforce de faire écouter les deux extraits à la suite, bon, bah, c'est déjà parce qu'on est à la radio et qu'on aime ça. Mais c'est qu'évidemment, il y a une grande différence de jeu entre les enfants, dirigés par Doyon en 75. Le réalisateur refusait de les transformer en acteurs à texte. Et puis, donc, une différence avec les enfants en 2017 qui avaient une coach les faisant apprendre leur texte. Toujours est-il que les enfants Dorian Leclèche et Baptiste Fleurial, dans cette nouvelle adaptation, eh bien, sont très convaincants. Comme ils sont de quasiment tous les plans, leur talent et probablement leur travail ont dû soulager le réalisateur et les acteurs adultes qui les entouraient. Une part du succès d'Un sac de billes tient à eux. La caméra de Christian Duguay les suit avec attention, avec un léger flottement tenant à la steadicam qui est finalement bienvenue, hein, puisqu'on n'échappe pas à la reconstitution, à une certaine pesanteur due au décor et au costume, parce qu'on voit des bérets, des moustaches et des bretelles. Alors, autre paramètre qui aurait pu appesantir le film, eh bien, la lumière, elle est ici éclatante par moments quand les garçons se retrouvent en plein air, en pleine fuite, mais peut devenir plus tamisée quand ils sont dans les espaces intérieurs. Alors, il ne s'agit pas d'un grand film, mais Christian Duguay semble suivre un cahier des charges, rendre digeste une histoire de l'occupation, et il y parvient. S'il suit largement les enfants et leur transformation, il donne également un rôle plus conséquent au père. Ça, c'est un désir de Joseph Joffaut qui ne faisait qu'évoquer en fait la figure paternelle dans son livre. Du coup, Patrick Bruel campe ce père aimant, bienveillant et conscient du danger. La séquence où les enfants sont interrogés par la Gestapo pendant des semaines pour avouer leur judéité résonne avec une fin libératrice qui a provoqué des applaudissements nourris dans la salle. Et comment peut-il en être autrement ? La fuite de ces enfants, c'est l'histoire d'une survie, d'une humanité qui scintille dans un monde d'adultes voués à la guerre et l'ignominie. Un sac de billes, donc, de Christian Duguay devrait être un grand succès dans les salles.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Un appareil qui contrôle tous les satellites militaires de la planète est tombé entre les mains de quatre types très dangereux.
On a besoin de quelqu'un capable de bouger comme eux. De se battre comme eux. Agissez en patriote.
Il n'y a plus de patriotes. Que des rebelles et des tyrans.
Et vous êtes qui ?
Moi, je suis Triple X.
Alors, l'agent XXX, hein, qui n'est pas un acteur porno, hein, au sexe surdimensionné, il n'a rien non plus de l'élégance de 007 et de la malice d'Ethan Hunt, la star de Mission Impossible. Alors, pour la seconde fois, alors qu'il y en a trois, hein, il est incarné par ce gros balourd de Vin Diesel et son fameux regard, acteur aux expressions plus limitées qu'un poulpe, mais à la musculature impressionnante et au tatouage imposant. Un homme, un vrai, pour ceux qui aiment les salles de muscu et qui prennent leur pied en visionnant tous les Fast and Furious. Alors loin de l'incarnation de l'espion tel qu'on se l'imagine, hein, Diesel endosse à nouveau la carcasse de Xander Cage, sportif de l'extrême devenu agent d'élite et nous immerge en plein revival 80s, époque bénite pour les amateurs de Jojo les gros bras tels que, alors on peut tous les citer, hein, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone. Et ne vous moquez pas, il y a des amateurs de ce cinéma-là, même chez les cinéphiles les plus avertis.
Et chez tous les spectateurs, parce que c'est ce film qui fait les, ah oui, les meilleures entrées. Plus de 500 000, oui.
Et alors, et surtout, surprise, hein, ce XXX est une très agréable surprise, hein, en dépit d'un scénario totalement débile qui vire à l'absurde, volontaire, je pense, sinon il y a un truc qui m'a échappé. Hein. Et comme je suis incapable, vu la succession de retournements de situation et d'identité, de résumer le pitch, je remercie Allociné qui écrit donc « Xander Cage sort de l'exil qu'il s'était imposé pour affronter le redoutable guerrier Alpha Xiang et son équipe. Il entre dans une course impitoyable afin de récupérer une arme de destruction massive connue sous le nom de boîte de Pandore. » Je trouve ça c'est extrêmement original. On a l'impression que les Missions Impossibles ont déjà écrit ce type de scénario. Alors, recrutant une toute nouvelle équipe d'experts accros à l'adrénaline, Xander se retrouve au cœur d'une conspiration menaçant les gouvernements les plus puissants du monde. Alors, le réalisateur DJ Caruso, hein, à qui l'on doit néanmoins quelques thrillers sophistiqués plutôt intéressants comme Paranoïac ou L'œil du diable, conscient à mon avis de la crétinerie de son script, joue à fond la carte de la dérision et s'en sort au final plutôt bien. Alors, XXX Reactivated est une bonne surprise, un blockbuster fun et idiot d'une générosité bienvenue. Les filles en tenue sexy sont canon, les scènes d'action invraisemblables bien emballées, les dialogues alors, d'une imbécilité sans nom parviennent à faire rire pour ceux qui aiment les réparties du type t'as la braguette ouverte. On se croirait vraiment revenu parfois à certaines comédies françaises de la fin des années 70, début 80 avec Paul Prébois et tous ces grands comédiens de français. Alors le film propose aussi alors, un discours plutôt marrant, plutôt démocrate et multiethnique et culturel qui est réjouissant. Parmi l'équipe d'agents, on trouve entre autres alors, une indienne super bandante, deux asiatiques, un ex-hippie parano, une intellectuelle coincée mais brillante, un black. Alors il y a Ice Cube qui était le héros du deuxième XXX qui fait un caméo en fait. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. Alors il y a une lesbienne rebelle aussi et bien sûr notre Vin Diesel qui carbure à la testostérone. Alors face à cette joyeuse bande de cinglés, sortie tout droit d'une BD finalement, les méchants ont des tronches de républicains. Alors entre les militaires au faciès de G.I. Joe et le look d'Ariane de la chef suprême des services secrets interprétée par l'excellente Toni Collette qui fait, elle fait presque peur, très loin de son rôle dans le sixième sens puisque c'est là qu'on l'avait découvert. Alors évidemment, ne voyez pas XXX comme un film politique subversif, hein. Reste, si vous laissez votre cerveau au vestiaire, un produit de consommation enlevé et divertissant et plutôt plaisant, hein, lié à son absence de prétention, un peu comme si vous regardiez un spectacle de fin d'année où vos mômes joueraient aux espions pour sauver le monde, avec quelques millions supplémentaires.
Vous vous sentez plus en sécurité aujourd'hui qu'il y a encore quelques années? Personnellement, j'ai des doutes. On est le pays avec le budget militaire le plus élevé au monde, et dans les aéroports, on a toujours peur des baskets et des slips explosifs. Pourquoi on en est là? Parce que les soldats sont faits pour recevoir des ordres et se battre pendant les guerres. Mais nous, mon ami, on n'est pas en guerre, soyons clairs. On est gravement en danger. Voilà pourquoi Triple X.
Voilà, ça peut donner envie.
Bah, le dialogue, il est pas mal. On n'est pas en guerre, on est gravement en danger.
Voilà, donc c'est sur les écrans. Un autre film qui arrive, c'est L'Ascension de Ludovic Bernard avec Ahmed Silla et Alice Belaïdi. Ça va être l'interview de cette émission.
C'est un état d'esprit.
Cinérama. Bonheur. Chronique. Invité et nouvelle du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Pour toi, je pourrais gravir l'Everest. Samy voudrait bien emballer Nadia et lui tient à peu près ce discours. Sauf que la jeune fille, eh bien, le prend au mot et lui décide alors d'aller gravir les pentes de l'Himalaya pour prouver son amour. Le problème, c'est qu'il ne sait rien de l'Everest, ni vraiment où le sommet se trouve, pas plus qu'il se représente ses 8848 mètres. Lui, dans son quotidien, à la Courneuve, eh bien, culmine à quelques mètres seulement. Pourtant, sans préparation physique, sans véritablement de matériel, Samy va entreprendre cette ascension du toit du monde. Il sera aidé par un banquier un peu à l'ouest, une radio associative qui va lui donner un portable afin qu'il donne de ses nouvelles quotidiennement au quartier. Pour le reste, il ne devra compter que sur lui et ses rencontres sur les pentes de l'Himalaya, en l'occurrence un Sherpa et son guide. Pendant ce temps de l'ascension, Nadia, restée en France, attend son aventurier et questionne ses sentiments. L'Ascension est un feel-good movie qui s'inspire d'une histoire vraie, celle de Nadir Dendoun. Le journaliste en a tiré un livre, un tocard sur le toit du monde. Originaire de Seine-Saint-Denis, eh bien, Nadir Dendoun a gravi l'Everest en 2008 alors qu'il n'avait aucune expérience en montagne. Il a menti sur tout pour atteindre son but. Cette ascension a fait de lui le premier franco-algérien à atteindre le sommet. Le réalisateur Ludovic Bernard, dont c'est le premier film, il fut surtout le premier assistant de Guillaume Canet, Mathieu Kassovitz, mais majoritairement, d'après ce que j'ai vu, de Luc Besson, a voulu s'éloigner de l'histoire originelle. Il a gardé l'exploit, mais a rajouté l'histoire d'amour, le soutien de la radio associative également, hein, qui permet de dynamiser le récit. Et puis en guise de franco-algérien, bien, il a pris Ahmed Silla, le comédien et humoriste d'origine sénégalaise. On écoute alors surtout le réalisateur Ludovic Bernard, un petit peu les comédiens Ahmed Silla et Alice Belaïdi. Ahmed Silla racontera d'ailleurs comment ça pouvait être compliqué parfois de tourner si haut, puisque l'équipe est allée à plus de 6000 mètres d'altitude.
Bienvenue en Seine-Saint-Denis, au pays du béton et du chômage. En exclusivité, le premier habitant du 9-3 à gravir l'Himalaya.
C'est déjà un roman, j'avais déjà entendu parler de Nadir dans les médias, et c'est un roman incroyable, l'histoire d'un mec sans aucune expérience de la montagne qui part gravir la montagne la plus haute du monde. C'est pas anodin, et puis ça donne un sujet de cinéma absolument phénoménal, quoi.
Voilà. Je vais marcher pendant un mois, là.
C'est la seule idée que t'as eue dans l'année, c'est, je veux dire, je vais marcher.
Maman, je vais pas partir avec des bonbons.
Hey, depuis quand tu discutes avec ta mère, toi?
J'aimerais te poser la question que tout le monde se pose. Pourquoi tu fais ça?
Avec Ahmed, quand on a travaillé sur le scénario et sur le personnage de Samy, c'était les premiers mots que je crois que j'ai dû te dire. Ouais. C'est l'inconscience, c'est l'insouciance, c'est sa candeur, sa naïveté qui mène ce personnage aussi loin.
Nadia.
Salut, je veux un mec qui assure.
Je ferais n'importe quoi pour toi. Je montrais même l'Everest, s'il fallait.
Bah oui, tu montrais l'Everest.
C'est vraiment son innocence qui le mène jusqu'au bout, quoi. Et je pense que dans la vie de tous les jours, c'est pas un Everest qu'il faut gravir, mais c'est aller au bout de ses rêves et des choses qu'on a envie de faire et des choses qu'on veut accomplir.
Deal de merde.
Tu vas surtout en céder que t'as fait le Mont Blanc.
Ouais, mais c'est quand même balèze le Mont Blanc.
Déconne ou quoi? Hakim, il l'a fait avec sa sœur la dernière fois en classe bière.
Ah ouais?
En plus, il faisait beau.
Kilimandjaro. Dans la face nord.
Un peu toutes les faces.
C'est un vrai message. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent voir le film et tout ça. Et on sent que bah, ça met un peu des étoiles dans les yeux à plein de gamins et tout, de se dire. Ben, même ne serait-ce que, bah ouais, Ahmed, en fait, t'as réussi, tu passes à la télé, tu machin, ça, c'est aussi, ça fait écho, en fait, finalement. Après, ce qui est aussi important, c'est que on n'est pas obligé d'avoir ce bigger life, c'est-à-dire, on n'est pas ni obligé d'être champion de foot, ni rappeur, ni forcément gravir l'Everest, c'est-à-dire que on a le droit d'avoir des petits rêves aussi. Après, c'est le cinéma, c'est une histoire, une grande histoire qu'on raconte, mais... oui, oui, mais on a aussi le droit de s'autoriser des mini-rêves, et c'est aussi ça, la
on a gommé aussi pas mal de clichés de la cité dans le film pour éviter d'avoir une façon de parler trop banlieue. Nadia parle pas du tout banlieue. Les copains sont des copains. Les parents de Samy sont des gens qui travaillent normalement comme tout le monde. Ils sont pas riches évidemment, mais ils travaillent. Ils ont un métier. Ils ont une famille. La mère de Nadia dans le film élève ses deux enfants et c'est une femme seule d'aujourd'hui qui voilà. Nadia prend des cours de droit et travaille quand même au supermarché du coin pour évidemment arrondir les fins de mois. Mais quoi, c'était trouver une autre manière de raconter la banlieue qui, je crois, est la vraie banlieue aussi d'aujourd'hui. Il faut montrer les côtés positifs de la banlieue et de toutes les banlieues. C'est pas que la banlieue de Paris, c'est pas que le 9-3, c'est les banlieues de Montpellier, c'est la banlieue de Marseille, c'est partout, quoi. Il y a des bonnes choses et il y a vraiment de bonnes choses partout.
Moi, j'habite au 6e étage sans ascenseur et il n'y a pas un mec qui monterait pour moi.
Je la cherche. Ça m'étonnerait, il est déjà parti.
Arrête, tu déconnes.
Il n'y a pas de grande histoire aussi qui se fonde sans belle histoire d'amour et il faut faire appel aux sentiments, je crois, aussi simples qu'est deux personnes qui s'aiment et qui n'arrivent pas à se trouver. Donc c'était ça aussi, c'était le point culminant du film. C'est le point culminant du film. Cette histoire a plus de chances d'aller plus loin, je crois, avec deux personnes qui s'aiment et qui veulent arriver jusqu'au bout, mais qui n'ont pas les moyens à ce moment-là dans le film et qui n'ont pas le... Voilà. Et je pense que le personnage aussi de Samy dans le film n'est pas prêt pour une grande histoire d'amour. Il veut une amourette, il veut quelque chose, mais il n'a pas compris que ça peut aller
il
plus loin.
Il va la chercher, ouais.
Voilà, exactement.
En fait, son amour, je pense, grandit en même temps qu'il gravit cet Everest.
Mon boulot, c'est de vous emmener en haut.
Sérieux, jamais on s'arrête là.
Si on attend encore 50 ans, il y aura peut-être un téléphérique pour aller jusqu'en haut. Ça va, je plaisante.
Au-delà de la météo, c'est ce que je répète souvent, c'est qu'il fallait sans cesse trouver la motivation jour après jour de nous dire bah, « Demain, voilà, faut que je me dépasse pour marcher encore 4 heures et pour rejoindre le prochain village. » Même si on était fatigué, y a un jour où j'ai fait une petite crise d'hypoglycémie, je suis tombé dans les pommes. Et ouais, non, c'est sans cesse de trouver cette motivation, ce petit plus qui va nous galvaniser un petit peu pour se dépasser. C'est ça. Au Népal, c'était plus mental que physique. Et à Chamonix, c'était mental et physique. Ouais, parce qu'on avait la fatigue du Népal, on avait la météo qui jouait un petit peu contre nous. Là, c'était... fallait se dépasser à chaque fois.
Mais qu'est-ce que je fous dans cette galère, putain ?
Je sais que tu es fier de toi. Pourquoi tu lui as dit de partir là-bas ?
Nadia, c'est moi. Je t'ai dit que je ferais n'importe quoi pour toi. Bah, ça y est. Je crois que je suis vraiment en train de faire n'importe quoi.
On se fait, c'est vrai!
J'en profite pour passer un petit coucou à ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, et Nadia surtout. Et puis un grand big up à tous ceux qui me soutiennent, au quartier ailleurs.
Ah mais c'est où l'Everest en fait?
Normalement c'est vers l'Est. Everest.
J'arrive plus à avancer! Amène-moi là-haut, je t'en supplie!
L'Ascension est un feel-good movie des Sims qui est plutôt doux, hein, pas de grande poilade, mais aussi entre film romantique d'aventure et social. Sans être un grand film, L'Ascension est vraiment sans fausse note, pas comme le film de Ben Affleck. Manu, tu vas nous en dire quelques mots.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
L'alcool, les jeux, les braquages, les femmes, les années folles. La fin de la Prohibition sert de toile du nouveau film de Ben Affleck, hein, Live by Night, adapté tout comme son premier long métrage, Gone Baby Gone, d'un roman de Denis Lehane, certainement l'un des meilleurs auteurs de polar contemporain et très chouchouté au cinéma, comme en témoignent déjà Shutter Island et Mystic River. Alors, ce qui surprend dans Life by Ned, n'ayant pas lu l'ouvrage, c'est l'indigence totale du scénario, sa succession de clichés, de scènes obligatoires, comme si le genre, film de gangster donc, ne pouvait fonctionner autrement. Alors, aucune surprise ne vient briser un récit ultra-linéaire dans lequel les spectateurs ont toujours deux bobines d'avance sur les personnages.
Même si tu gagnes la bataille d'aujourd'hui, tu es plongé dans un monde de violence.
Tu ne crois pas que je sois assez fort ?
Je ne sais pas si tu es assez cruel.
Les hommes de pouvoir n'ont pas besoin de l'être. J'ai fait la guerre comme engagé volontaire. Je suis parti soldat. Je suis revenu hors la loi.
On fait ce qu'on veut. On va là où on veut.
Donne-nous le fric !
Je veux pas être un gangster. Je baisse plus les pieds de personne depuis longtemps.
Ça n'a plus aucune importance, ce que tu veux. Ta vie, c'est celle-là.
Mon père dit qu'avant, tu étais quelqu'un de bien.
On n'a jamais la vie qu'on imaginait.
En écoutant la bande-annonce, on dirait un film d'action un peu bourrin quand même, hein, vu les dialogues.
C'est vrai.
Alors, Life by Night raconte, hein, via une voix off du personnage principal, l'histoire donc de Joe Coughlin, qui démarre dans le Boston des années 20, fils du chef de la police, d'ailleurs excellemment interprété par Brendan Gleeson. Il s'est écarté de l'éducation rigide de son paternel pour mener une vie de criminel à la petite semaine, des braquages essentiellement. Hélas, Joe se met à dos un caïd irlandais, Albert White, en lui volant son argent et surtout sa petite amie. Sa liaison passionnelle va lui être fatale, entre la vie et la mort, et après une peine de prison de 3 ans pour un braquage foiré qui coûta la vie à 3 policiers, il décide de se venger du caïd responsable indirectement de la mort de la femme qu'il aimait. Alors il s'impose au sein de la mafia de la Pampa dans le seul but de nuire à Albert White, mais ce dernier s'adjoint les services du Ku Klux Klan. On voit qu'il essaye de brasser quand même pas mal de thèmes finalement, le réalisateur. Alors en soi, le scénario est ambitieux, hein, brassant donc des thèmes aussi riches et variés que le racisme, la politique, la vengeance, la morale, la réflexion sur le bien et le mal. Alors rien de nouveau, mais la matière est là. Ben Affleck est un habile metteur en scène, sans génie, Saint-Jean à outrance ses maîtres. Alors Eastwood pour Gone Baby Gone, hein, Spielberg pour Argo, Michael Mann pour The Town, et ici c'est Brian De Palma et aussi un petit peu Francis Ford Coppola. Mais le Brian De Palma des Incorruptibles. Hein. Alors en élève appliqué, il a des modèles bien précis, la reconstitution, les brillants balais d'une caméra très mobile, les costumes rutilants, les gunfights très stylisés rappellent à notre souvenir les Incorruptibles au point d'en être parfois embarrassant. Mais cette facture visuelle impersonnelle, agréable pour l'œil, est hélas totalement gâchée par le point noir du film, le gros point noir. Ben Affleck a un vrai talent de cinéaste à défaut de vision personnelle, mais ne sait absolument pas se diriger lui-même. Alors au lieu de se faire autant confiance, il aurait dû caster un autre comédien. Alors c'est pas une surprise, hein, mais Affleck est ici absolument nullissime. Il traverse le film sans aucune expression, comme si rien ne lui importait. Alors cet aspect aurait pu être intéressant si le cinéaste l'avait fait consciemment, traiter un personnage fantomatique traversant le film tel un spectre indestructible où tout le monde meurt autour de lui, parce que c'est un peu le cas, hein, tout le monde meurt autour de lui, sauf lui. Il y avait matière à flirter avec le surnaturel, et hélas, les intentions sont beaucoup plus terre-à-terre, et le jeu catastrophique de l'acteur, hein, pratiquement de tous les plans, interroge un peu sur son ego surdimensionné et son manque de lucidité. Alors que personne ne lui ait soufflé que quelque chose ne fonctionnait pas, laisse pas en toi. Alors je n'ai pas regardé, mais je me demande s'il n'est pas lui-même producteur du film en plus.
Il y a des chances, hein. Oui.
Alors si les 10 dernières minutes, hein, sombrent aussi dans la mièvrerie et les conventions du genre les plus agaçantes, Life by Night est néanmoins sauvé par une seule séquence magnifique. Alors la rencontre lors d'un déjeuner entre une prédicatrice, hein, Magnetic Ellie Fanning, qui apparaît très peu mais qui est splendide, alors elle a un regard très triste, et puis Joe. Alors la prédicatrice, reconvertie suite à une déchéance liée à la drogue et à la prostitution, se livre à des réflexions qui laissent froid dans le dos. Elle avoue ne pas vraiment croire en Dieu, et si le paradis existe, il est forcément sur Terre, mais comme elle le dit avec un désespoir infini, nous avons tout gâché. 5 minutes assez déchirantes qui donnent malgré tout envie de se replonger, ou de se plonger plutôt, dans le roman. Parce que j'ai quand même confiance en Denis Lehane, ce que n'indique pas du tout ce film, que je trouve complètement raté du début à la fin.
On pourrait aussi avoir envie de se plonger dans Miller's Crossing de
Cohen, oui. Non, alors peut-être qu'il y a la référence aussi, j'avais pas pensé. Miller's Crossing qui est pour moi un véritable chef-d'œuvre.
Oui, pour le coup, qui questionne bien, je trouve, le film de gangster. Avec un personnage qui va d'un côté et de l'autre.
Gabriel Byrne, c'est autre chose que Ben Affleck, du moins en tant que comédien. Hein.
Ce sera la conclusion de cette chronique. Merci Manu.
Et maintenant,
Quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Il suffit qu'il y ait 2 mois de salaire en retard pour que tout le monde soit de mauvaise humeur ?
Ben ouais.
Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire là, dans les yeux, qu'il a déjà commencé un spectacle ici, sans avoir été payé jusqu'au dernier centime ? À part toi.
Édouard Baird est un amuseur qui a fait ses armes à la radio avant d'œuvrer à la télévision et de poursuivre au cinéma et au théâtre. Autant dire que les intermittents, eh bien, il les a côtoyés. Hein. Dans son 3e long métrage, après le délicieux La Bostella et À quoi bon, voilà Édouard Baird bombarder Luigi, patron d'un grand théâtre privé qui met en scène une pièce d'un illustre metteur en scène japonais. Mais la petite entreprise ne va pas très bien car Luigi, tout patron qu'il est, eh bien, n'arrive pas à gérer correctement son affaire. Et chez les techniciens, eh bien, ça grince.
C'est la grève. Quand on a nos payes, ça reprend.
Ça fait 2 mois qu'on attend le vrai singe.
Eh ben le vrai singe, il est en cours de route.
Et avec ça, eh bien, il y a cette histoire de singe. Le metteur en scène japonais veut absolument une vraie bête quand Édouard Baird, eh bien, avec les moyens qu'il a encore, lui fournit un homme avec un costume. Voilà l'ambiance d'Ouvert la nuit. Le film, donc, dernier film de Édouard Baird. Luigi va avoir 2 objectifs. Aller demander une rallonge à la riche femme qui détient le théâtre. Et puis également, eh bien, trouver un singe. Le problème de Luigi, c'est qu'il n'a pas les mêmes priorités que son entourage. Qu'il est toujours capable de faire des choses insignifiantes avant d'entrer dans le vif du sujet et encore sans conviction. Ouvert la nuit se transforme en road movie nocturne dans Paris, où l'on va de bars populaires en brasseries vaguement mondaines jusqu'à des lieux improbables et un hôtel particulier des beaux quartiers.
À quoi ce soir ? Un cocktail ? Une avant-première ? Je peux venir avec toi ? Le singe, tu peux te le foutre au cul.
Mais on court pas là ?
Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait de mal ? L'animal sauvage, ça appartient à personne, hein ?
Taxi !
Qu'est-ce qu'on fout là ? On n'est pas censé aller au théâtre là, aller récupérer de l'argent déjà d'abord ?
Oui, ben on y va.
Vous aviez rendez-vous avec votre banquier un samedi soir dans un bar ?
Ah non, moi j'avais rendez-vous, t'es folle. Non. Je laisse faire le hasard, moi.
Il est où, Luigi ?
Il est où, Luigi ?
Pas vu.
Il est toujours pas apparu, Luigi, là.
Mais il est apparu d'où ? Tu sais où il est ?
Le magasin.
Mais je vous agresse pas, je vous parle normalement.
Si, là, tu es très agressif.
Non, je vous parle normalement.
Je te dis que ton ton normal est déjà très agressif. Par là !
Alors, on l'entend, hein, Luigi est plutôt insaisissable. Il laisse faire le hasard, dit-il. Ce qui prend quand même beaucoup plus de temps que de prendre son taxi et d'aller à un rendez-vous. Et pour mieux trancher avec ce personnage fantasque, il est accompagné dans sa nuit par une stagiaire à Sciences Po, interprétée par Sabrina Ouazani. Et du coup, Édouard Baird, qui met déjà en abîme le monde du spectacle hein, dans son film, s'amuse également avec le débit de parole, un tantinet agressif de Sabrina Ouazani, tel qu'on l'entendait par exemple dans l'esquive d'Abdelatif Kechiche.
Comprenez-la, vous aussi, vous êtes des meufs ou quoi ? Vous avez un cœur, oui ou merde ? Comprenez-la, ça, tu kiffes ! Elle a le seum, elle veut pas lâcher l'affaire, elle le kiffe, et puis voilà, merde !
Voilà, donc nous allons de lieu en lieu dans un Paris nocturne avec un homme qui déteste l'esprit de sérieux mais ne prend jamais vraiment garde à son entourage. L'anniversaire de son filleul, le fils de sa collaboratrice, eh bien, il ne le voit pas venir. Il est incapable de rester plus de 5 minutes aux côtés de ses filles qu'il dit pourtant aimer. Mais bon, les aimer, ça ne change rien à l'affaire. En résumé, Luigi a quelque chose d'absolument généreux, drôle, goulayant. Mais à le côtoyer, on peut très vite le trouver antipathique, superficiel et irresponsable. Il saura aussi être pathétique au plus loin de la nuit. C'est bien une comédie. Dit avec une touche mélancolique.
Mais tu te rends compte qu'on est samedi soir à Paris ? On va pas se laisser enfermer.
Là ! Allez, on y va, on fait les choses en vrai, on va voir les gens en vrai, on les touche.
J'ai envie de vous peindre.
On parle, on discute, on s'accroche, on boit un coup.
Ah !
Il faut cesser d'avoir peur et c'est là qu'on aura plus de limites.
Oui. Ça, c'est fait.
Ah ! Au secours !
Il y a un problème ?
Non, il y a pas de problème.
Non, mais qui a dealé ce contrat, la con, la 1000 euros au jour ?
Toi.
Moi ?
Oui.
Mais qu'est-ce qu'il m'a pris, moi ? Et toi, tu pouvais pas m'en empêcher, non ?
Édouard Baird y exerce son humour. Alors, si vous n'aimez pas le style absurde et décalé du personnage, eh bien, mieux vaut passer votre chemin. L'interprétation est radicale, même si Édouard Baird ne tient pas seul le film. Sa fidèle collaboratrice dévouée est interprétée par Audrey Tautou. Et très bien. Le technicien gréviste vivant au milieu d'un village africain à Montreuil est joué par Grégory Gadebois, là encore très très bien campé. On voit également un Michel Galabru qui n'aura pas plus de dialogue que dans Les Ch'tis, mais qui fera le boulot. Et pour mieux exploiter son personnage volubile, jamais à l'arrêt, eh bien Édouard Baird use d'une caméra mobile et tente de donner du rythme et de la vitesse à chaque scène, à quelques exceptions près. La mise en scène est donc bien tenue. Pour autant, si on sourit, quelques envolées de Luigi tombent aussi à plat. Le comique ici tient davantage au dialogue. Très bavard, co-situation, peu de repos pour le spectateur, mais un peu de plaisir quand même. Voilà, c'est le dernier film de Édouard Baird, Ouvert la nuit, qui est déjà dans les salles depuis le 11 janvier.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui ?
Vous pouvez pas contrôler qui est qui ?
Quoi, qui est qui ?
Bah quoi, qui est qui, quoi ?
Eh bien, qu'y a-t-il ?
Auriez-vous oublié que nous partons ?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Alors, la semaine prochaine, Manu, après XX Reactivated,
tu... Ah bah, je vais continuer hein, dans le blockbuster un peu dégénéré, donc je vais aller voir Resident Evil Alors je dirais que c'est le 6 à mon avis. Et puis je vous parlerai de la communauté de Thomas Vinterberg.
Et puis il y aura le retour de Marine.